bonjour.
Bonjour Toufik, bonjour à tous. Donald Trump chauffe le chaud et le froid face à l'Iran. Le président américain évoque une très grosse erreur de Téhéran qui a abattu hier un drone américain. Il aurait approuvé des frappes contre les installations iraniennes avant de se raviser. Vous entendrez Donald Trump dans un instant. Parole donnée également au président français Emmanuel Macron. Hier à Bruxelles, les dirigeants européens n'ont pas réussi à trouver un chef pour la commission. C'est Jeremy Hunt qui affrontera Boris Johnson pour prendre la tête du gouvernement britannique. Le parti conservateur en a décidé ainsi hier. Nous irons à Londres dans un instant. Et puis retour sur le procès France Télécom qui se tient à Paris depuis le début du mois de mai. Hier, l'un des trois prévenus était à la barre. L'Iran a choisi une lettre envoyée au Conseil de sécurité de l'ONU pour répondre aux États-Unis. Téhéran dénonce ainsi une action américaine provocatrice, très dangereuse contre son intégrité territoriale. Une référence au drone américain qui a été détruit hier matin par l'Iran parce qu'il était, selon les autorités iraniennes, dans leur espace aérien près du détroit d'Ormuz. Le président américain Donald Trump a répondu dans la foulée. Selon le New York Times, il a même approuvé des frappes contre des positions militaires iraniennes avant de se laisser convaincre de faire machine arrière. Voici Donald Trump hier soir.
Je pense que l'Iran a fait une erreur. J'imagine que c'est un général iranien ou quelqu'un qui a commis cette erreur de tirer sur notre drone. Heureusement, ce drone n'était pas armé. Il n'y avait personne dedans et il se trouvait très clairement au-dessus des eaux internationales. Mais il n'y avait pas d'homme ou de femme dans ce drone. Laissez-moi vous dire, ça aurait fait une grosse différence si ça avait été le cas. Une grosse différence. Mais j'ai le sentiment, peut-être que je me trompe, mais je me trompe rarement, que c'est une erreur faite par quelqu'un qui n'aurait pas dû faire cela. Vous verrez bien ce qui va se passer. Vous verrez bien.
Ce matin, Washington annonce interdire les vols commerciaux américains dans l'espace aérien de l'Iran. Hier, Emmanuel Macron a appelé les deux parties au calme. Le président français qui s'exprimait depuis le Conseil européen à Bruxelles. Lors de ce sommet, les 28 pays membres n'ont pas réussi à se mettre d'accord sur un nom pour présider la Commission européenne. Faute de consensus, les trois candidats sont donc écartés, que ce soit la Danoise, Margrethe Vestager, le Néerlandais, Frans Timmermans, ou encore l'Allemand, Manfred Weber, qui était soutenu par Angela Merkel, mais rejeté par la France notamment. Emmanuel Macron s'en est expliqué.
Les noms qui ont été débattus aujourd'hui n'ont pas été en fonction de leur nationalité. J'ai eu l'occasion d'ailleurs de le dire moi-même. Je n'ai rien contre une candidature allemande. Je l'ai dit et ça n'était pas une boutade. La chancelière aurait-elle même été candidate, je l'aurais soutenue. Parce que je pense qu'elle a les qualités, les compétences pour être une très bonne présidente de la Commission. Ça n'est pas son souhait, je le respecte très profondément. Mais c'est aujourd'hui ce que les systèmes des partis politiques ont fait émerger, qui a été questionné. Et donc, il ne faut pas y voir du tout un débat franco-allemand. Il faut y voir un vrai débat démocratique, politique et de projet au sein de l'Union européenne.
Des propos recueillis hier soir par Angélique Bouin. Notons par ailleurs qu'il n'y a pas eu d'unanimité sur l'objectif de neutralité carbone d'ici 2050 dans l'Union européenne. La Pologne, suivie par la République tchèque, la Hongrie et l'Estonie, ont bloqué l'accord. La course pour Downing Street touche à sa fin. Les députés ont finalement désigné les deux candidats qui seront présentés au vote des membres du Parti conservateur. C'est Jeremy Hunt qui affronte Boris Johnson, Marina Daras.
Avec 77 voix, il bat de justesse le ministre de l'Environnement, Michael Gove. Jeremy Hunt et Boris Johnson se retrouvent donc au coude à coude pour prendre le poste de Premier ministre. Depuis le début des votes éliminatoires, la semaine dernière, il était certain que Boris Johnson finirait en finale. Il recueille d'ailleurs plus de la moitié des votes des 313 députés conservateurs et les bookmakers lui donnent désormais plus de 92% de chances de devenir le prochain Premier ministre du Royaume-Uni. La grande question était de savoir qui allait bien pouvoir lui faire de l'ombre. Bien que loin derrière Johnson, Jeremy Hunt était le deuxième candidat à recevoir le plus de soutien de la part des députés. Son expérience d'entrepreneur et de businessman rassure un parti qui a toujours été orienté sur le commerce. Reste à savoir si cette expérience sera assez pour les 160 000 membres du parti conservateur qui auront quelques semaines pour choisir entre lui et le très populaire Boris Johnson.
Marina Daras à Londres pour France Culture. Près de 10 000 personnes sont entrées hier dans le Parlement en Géorgie. Georgie, forçant un barrage de police. Scène de heurts qui ont fait 39 blessés côté forces de l'ordre, 30 côté manifestants. Les protestants contestaient la prise de parole d'un législateur russe dans l'Assemblée géorgienne depuis le siège du président. La Géorgie a dû abandonner il y a 11 ans maintenant deux de ses provinces dans une guerre avec la Russie. Les deux pays n'ont depuis plus de liens diplomatiques. Des rassemblements aussi à Hong Kong où des centaines de manifestants bloquent de nouveau ce matin le centre-ville et notamment l'une des artères principales devant le Parlement local. Ils exigent la démission de la chef du gouvernement pro-Pékin, Carrie Lam. C'est elle qui ne veut pas céder sur le projet de loi permettant des extraditions vers la Chine. Et c'est une nouvelle étape dans la crise diplomatique que traverse l'ancienne colonie britannique. Le président chinois Xi Jinping s'est entretenu avec le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un hier. Un échange dans le cadre d'une visite de deux jours pour consolider les liens économiques entre Pékin et Pyongyang. Xi Jinping est le premier président chinois à se rendre en Corée du Nord depuis Hu Jintao en 2005. Quelles conséquences en sortiront? Théo Clément est docteur en recherche au King's College de Londres. Il voit plusieurs scénarios possibles.
Si Xi Jinping est en Corée du Nord essentiellement pour mettre la pression sur Washington et pour rappeler à Donald Trump que la guerre commerciale est une mauvaise politique, il est tout à fait possible que Xi Jinping soit un peu provocateur et parle de développement de la coopération économique avec la Corée du Nord, par exemple, pour faire comme un pied de nez vis-à-vis des États-Unis. S'il s'agit plutôt d'une rencontre qui cherche à resserrer les liens entre la Corée du Nord et la Chine, on pourrait imaginer plutôt des conversations politiques sur comment développer des liens diplomatiques, comment réintégrer la Corée du Nord dans la division internationale du travail, travailler sur des projets communs de développement des infrastructures, notamment les entreprises chinoises du nord-est de la Chine sont très intéressées par les ports nord-coréens, développement du secteur minier, les questions d'agriculture, etc.
Pas de question de droits de l'homme, mais là, tous les deux semblent d'accord sur le sujet.
Alors, sur la question des droits de l'homme, ni la Corée du Nord ni la Chine n'ont une diplomatie vis-à-vis de ça, et je pense qu'ils n'ont pas vraiment à apprendre l'un de l'autre, donc la question ne se pose pas.
Théo Clément, interrogé par Nathanaël Charbonnier. Après un début de grève de surveillance, ils corrigeront les copies du baccalauréat, mais ils ne les rendront pas au rectorat. Certains professeurs veulent faire de la rétention de copies pour protester toujours contre la loi Blanquer pour une école de la confiance. Parmi ces enseignants, Marc-Antoine, syndicaliste à Sud et professeur de philosophie, il s'explique.
La grève des surveillances, c'était intéressant, mais ça peut être absorbé par un appel massif à des précaires, des étudiants recrutés, des vacataires et des personnels administratifs pour faire la surveillance. Et ce qui nous a paru pertinent, c'était non pas le refus de correction, mais le fait de corriger, de retenir les notes pour une durée illimitée. Alors rétention de notes, concrètement, ça signifie qu'on a nos copies, on les corrige, et en fait, au moment où on doit les renvoyer au rectorat, on conserve les notes. Parce qu'on n'a pas trouvé d'autre moyen que celui-là pour faire face au mépris du ministère. On aimerait bien ne pas en venir là, c'est quand même dommage, quoi. Sérieusement, on proteste, on envoie des arguments, on discute toute l'année. On se met en grève, on envoie des signaux un petit peu plus tendus. Et en fait, quoi qu'on fasse, on sera méprisé. Et ce gouvernement, il est capable d'attaquer sur tous les fronts à la fois et d'avancer comme un bulldozer. Donc à un moment, on se dit, bon, voilà, faut qu'on trouve des solutions pour ça. Essayons de pénaliser le moins possible les élèves, tout en bloquant la machinerie implacable à laquelle on fait face.
Un professeur de philosophie dans l'Indre, interrogé par Jérôme Collin. Au moins 60 000 femmes en seraient victimes en France. L'excision, considérée comme une mutilation sexuelle chez nous, elle est encore une coutume ailleurs et notamment dans plusieurs pays d'Afrique. Marlène Schiappa, la secrétaire d'État chargée de l'égalité femmes-hommes, va présenter ce matin son plan de lutte contre l'excision. L'idée est notamment de mieux repérer les jeunes filles qui risquent d'en subir et de faire de la prévention à l'école. Les suites du procès France Télécom, il dure depuis plus d'un mois et demi maintenant. 8 personnes sont jugées pour harcèlement moral et complicité après le suicide de 19 salariés de France Télécom dans les années 2000. Parmi les prévenus, il y a l'ancien numéro 2 du groupe, Louis-Pierre Vénès. Il était hier entendu pour évoquer les réorganisations dans l'entreprise. Compte rendu d'audience avec Antoine Marette.
Louis-Pierre Vénès a été cost-killer chez France Télécom, chargé de réduire les coûts. Il est le concepteur du fameux plan Next qui est au cœur de ce procès. Ce centralien de 70 ans avait à France Télécom la réputation d'être craint. À la barre, il explique son dilemme. Sans fioritures, on a des métiers où on a besoin de moins en moins de personnes et on a l'obligation de leur fournir un travail. On a entendu que les plans Next et Act étaient anxiogènes par nature pour engendrer 22 000 départs, lui rappelle son avocate. Louis-Pierre Vénès marque un silence. « Bien sûr que non, je ne comprends même pas qu'on me pose la question », s'indigne-t-il. « Moi j'avais envie d'emmener tout le monde, mais on n'avait pas de travail pour tout le monde ». L'homme se voit comme un skipper. Il explique qu'il a fondu en larmes lors du tournage d'un documentaire de Serge Moati consacré à France Télécom. « J'ai pas voulu que ça passe car sur un bateau, l'équipage ne doit pas voir que le skipper tremble. » Comment pensez-vous que la destruction de tous ces postes peut se faire? C'est quand même énorme, s'étonne l'avocate de Sud, maître Sylvie Topalov. Le ton monte. Que voulez-vous me faire dire? Répond le prévenu. C'est jamais facile quand les gens partent.
C'était Antoine Marette pour France Culture. Les pluies et les orages sont situés ce vendredi sur le sud-ouest jusqu'au massif central. Ailleurs, les éclaircies seront belles. Il fait ce matin 17 degrés à Lille et Rennes, 19 à Paris, 22 à Lyon, 27 à Marseille.